c'est quoi la French Touch?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont fait.
C'est quoi la French Touch? Ça ne voulait pas dire grand-chose.
C'est un sacré bleu, Dimitri, oui, baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne quoi.
Épisode 9, les Daft Punk deviennent des robots.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
attention,
2, 1.
Technologic.
Happy 2000.
Bienvenue à l'an 2000.
On est devenus des robots là, on faisait de la musique dans notre studio en septembre 99 et il y a une explosion avec le bug et on a eu quelques problèmes.
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk.
Et depuis on est devenus des robots, donc c'est intéressant parce que maintenant on n'aura plus besoin de mettre des masques et on peut montrer nos nouvelles têtes de robots.
Vous aviez besoin de ça?
Non mais les accidents on les prédit jamais.
Le storytelling est parfait, il est maîtrisé.
Pedro Winter.
Quel coup de génie.
Ancien manager des Daft Punk.
Donc là, 99, le bug de l'an 2000, comment se réinventer, comment s'approprier une nouvelle identité. Et ben, ces masques de robots, au début, peuvent faire sourire. En 99-2000, moi je me souviens qu'effectivement, faire avaler la pilule du bug de l'an 2000, c'est pas facile. Je crois même qu'on cherchait pas trop à l'expliquer, hein, d'ailleurs, parce qu'on était tous un peu fébriles quant à l'explication. Mais force est de constater qu'avec le temps, on a complètement oublié ce détail de la transformation de Daft Punk. Aujourd'hui, Daft Punk, effectivement, ça fait aucun doute, ce sont les deux robots. Je ne cherche pas à savoir qui est Thomas ou qui est Guyman. Thomas c'est le silver et Guyman c'est doré.
Non, malheureusement, il n'y a pas de système de réfrigération.
Guy Manuel de Homem Christo, moitié de Daft Punk.
Des fois, quand on joue à 35 degrés avec 90% d'humidité, c'est vraiment très dur. Mais donc non, il n'y a pas de clim ou de réfrigération ou quoi que ce soit. Et puis, il y a un intercom, ouais, des micros qu'on a pour parler ensemble, pour communiquer pendant le concert, pour bien le faire, mais sinon, c'est l'équivalent d'être de faire de la Formule 1, mais debout pendant une heure et demie, donc c'est peut-être moins long que la Formule 1, et puis on prend moins de risques, mais on a aussi chaud, et par contre, on n'a pas de petites pipettes avec des bidons d'eau, donc ça, c'est...
On commence à avoir l'habitude de ces conditions de performance.
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk.
Donc au départ c'était peut-être plus difficile, mais ça fait relativement longtemps comme ça qu'on s'est transformé sans faire de concert et maintenant en faisant. Donc c'est des conditions difficiles, mais elles correspondent vraiment à la façon dont on veut et se présenter, et on est un peu aussi des acteurs de ce spectacle et de cet univers qu'on amène au public.
Contrairement à ce que la plupart des gens disent.
Maya Masbeuf, directrice artistique chez Virgin.
Oui, c'est du marketing, etc. Au départ, ça ne l'était pas. C'était vraiment une manière artistique de comment préserver leur vie privée et continuer à être présent au niveau du grand public.
Ben voilà, il a fallu un peu de temps pour imposer les personnages, mais ça a été assez rapide quand même. Je crois qu'on en parle pendant la fabrication de Discovery. On est, je sais pas, en 98-99. Discovery, c'était vraiment entre le disque, en tout cas la vision et l'ambition du disque, le dessin animé avec Leiji Matsumoto, la transformation des robots. On était dans un chantier proche de la rénovation de Notre-Dame. Voilà, c'était un truc pharaonique, gigantesque.
On
va terminer en musique ce journal avec de la techno et le deuxième album de Daft Punk. Comme leur nom ne l'indique pas, ils sont français et ils sont même, avec Laurent Garnier et Saint-Germain, les références de la French Touch, la touche française plébiscitée aussi bien aux États-Unis qu'au Japon.
Ça, par contre, je me rappelle très bien avoir vraiment le moment privilégié de la première écoute de Discovery chez Guy Manuel.
Antoine Kenobi, consultant pour le label Kitsune.
Il met une petite chaise en face de sa chenille et il ferme la porte et dit « Je viens te revoir dans une heure ». Et je sais que la fin, il a joué le truc, j'ai fait « Encore ». Et il me l'a rejoué une fois, et donc on a dîné après. Il a fallu attendre qu'on bouffe pour que je le réécoute encore. Ça, j'en ai un souvenir très précis.
Discovery, c'est un tournant.
Odile Deplace, journaliste chez Trax.
En fait, on est convoqué à l'époque pour écouter l'album dans le plus grand secret. On vient 10 par 10 dans un grand appart près de la place du colonel Fabien. Il y a des colonnes, des enceintes en colonnes de super qualité. Et là, on nous fait écouter le disque. Un choc, parce que c'est pas du tout Homework, c'est pas du tout la même musique. Moi j'écoute, je me prends une claque et je rentre à la rédaction et j'attends que les autres aillent l'écouter. Donc on était convoqués à tour de rôle. Les autres reviennent de l'écoute et là je me rappelle qu'il y avait un de mes collègues qui dit « Ah non mais j'ai détesté, j'ai cru que j'allais vomir mon pain en chocolat en l'écoutant ». Et moi je suis outrée, je me dis « Mais non, mais c'est pas possible, ils ont rien compris ». Donc il y a un débat sans fin dans la rédac, on n'est pas d'accord, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. On décide évidemment d'en faire quand même l'album du mois, parce que c'est les Daft Punk et que tout le monde attend. Et on fait un pour-contre. Je fais le pour. Et Patrice, mon collègue, fait le contre. Et là, lui, il sort la sulfateuse pour défoncer l'album. Parce que lui, il est un petit peu plus âgé que moi. Et toutes les références des années 80, pour lui, c'est le pire de la musique. Et moi, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. Donc ça remue plein d'émotions. C'est effectivement TNCC, c'est les Buggles, c'est Prince. Donc c'est ouais, c'est la pop italienne, la disco italienne des années 80, c'est FR David. Je sais pas, le Rondo Veneziano, moi j'aimais pas ça, mais ça me fait marrer, j'écoutais ça à la télé, c'était Michel Drucker. Donc voilà, moi j'explique en fait dans ma chronique que si Homework était un disque bilan de toutes les années techno, celui-là est un disque charnière. Donc j'ai relu ma chronique, j'étais pas mécontente de ce que j'avais écrit. Je fonds complètement pour cet album, je me dis que c'est incroyable de passer d'un truc aussi underground à un truc aussi populaire. Et pour moi, c'est une collection de tubes.
David Guetta, Bob Sinclair, ils ont fait des carrières internationales de tubes, ce que tu veux. David, il peut dire qu'il a 50 millions de tubes, mais ça sera jamais un dixième des Daft au niveau de l'effet que ça a fait sur une culture de jeunes.
Hubert Boumbass, moitié de Cassius.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as succès et succès. Et eux, c'est vraiment, je prends ça, et parce que c'est cette partie-là qui a réellement influencé à cette époque-là, nous tous. On s'est dit, waouh.
J'étais emballé par l'album. One More Time, je me rappelle que c'était un peu plus compliqué l'écoute, mais finalement, je pense que One More Time, ça a été pour beaucoup de monde l'occasion d'entendre un disque de leur groupe préféré dans la fête du village, quoi. Et ça, peut-être qu'il y a des gens qui n'en sont pas revenus.
C'est vrai que moi, le One More Time, j'aimais pas le morceau, et en fait...
Étienne de Crécy.
Moi, j'attendais ça avec vachement d'impatience, et c'est vrai que le... Et One More Time, pour moi, ça a été la claque à l'envers.
Il y a des gens qui ont moins apprécié Discovery comme Work. Il y a des gens, c'était l'inverse.
DJ Falcon.
Je me souviens qu'il y avait cette petite polémique avec le traitement de voix de One More Time, parce qu'il y a eu Cher qui avait utilisé ce même traitement. Et voilà, et comme toujours avec les dates, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde prend une claque et tout le monde réalise que... Bah oui, c'est les patrons, quoi, la ligne.
Alors One More Time, oui, pour moi c'est le meilleur morceau de l'album aujourd'hui. C'est avec Rome Anthony, c'est vraiment un morceau que je passe sans me lasser jamais. C'est-à-dire que il y a tout le talent des Daft Punk qui est concentré dedans. C'est la compression, c'est les progressions. Et puis, c'est un chanteur de house music. Et moi, j'adorais la house music comme ça. On m'appelait Madame House Pouette Pouette. J'aimais bien la... Non, mais j'adorais la house vocale. C'est Rome Anthony, mais c'est un peu le prince de la house music. Il a une voix absolument incroyable. Et c'est une façon, pour moi, de faire connaître Rome Anthony au plus grand monde. Et One More Time, c'est devenu un classique même des mariages aujourd'hui. Donc je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire de la house music un classique des mariages.
Non, j'ai très bien compris pourquoi ils avaient sorti One More Time, quoi. Je crois qu'il y avait l'ambition de vendre des disques, de ils ont toujours eu ce côté super grand public, si tu veux, Daft Punk. Après, sur l'album Discovery, il y a des morceaux que j'aimais bien, c'est les morceaux que j'aimais, il y avait Aérodynamique, ou les morceaux qui sortaient un peu, qui avaient des... sortaient de l'ordinaire, si tu veux. Ces morceaux-là, je les trouve super bien.
C'était Radar Fastar, ça m'a... Ouais. Je me suis bon, d'accord.
Philippe Zdar, moitié de Cassius, 2005.
On était devenus potes, donc ils me l'ont fait écouter. J'ai pris une claque énorme, j'étais dégoûté. Ils m'ont forcé à écouter, je voulais pas. Ah ouais, je te l'ai dit, c'était ouais. L'enfer. On est tous allés ensemble à Londres. Moi, je disais dans le train, j'y vais pas. Et Thomas disait, non, venez, non, on n'y va pas. Non, allez, on vient. À la fin, on y va, on fait l'écoute. Et donc, ça nous a mis une barre, c'est-à-dire qu'on s'est dit, à nous, pas influencer sur la zik, mais en tout cas, dans notre musique à nous, on veut que ça soit aussi bien que, genre, il faut qu'on les éclate, ces enculés. On s'est jamais dit ça, hein, mais au fond de toi, c'est ça que tu te dis. J'ai eu certainement une période, je me rappelle très bien, où je faisais des morceaux qui ressemblaient aux leurs. La chance que j'ai, c'est que je les ai jamais sortis. Parce que j'ai eu même écrit que tout le monde, à un moment donné, tout ce que je faisais, ça ressemblait à Daft Punk. Ils étaient quand même super forts, les Daft, hein, tu vois, c'est un groupe comme il n'y en a pas beaucoup, quoi.
L'éternelle compétition Daft Punk Cassius.
Pedro Winter.
Là, on le dit avec le sourire, parce que tu peux être les meilleurs amis du monde dans la vie. Il y a une compétition légitime, naturelle, qui existe. Et Cassius, c'est ça. Maintenant, encore une fois, avec le recul, on peut le dire avec le sourire, et notamment Boombas, Hubert le dit lui-même, à chaque fois que Daft Punk faisait quelque chose, Cassius se lançait dans la course, mais se cassait la gueule. C'est ça, finalement, l'histoire qui serait assez fascinante à raconter. En tout cas, si jamais il y a un scénariste ou un réalisateur ou une réalisatrice de française qui veut remporter le César 2029, il faudrait se lancer là-dedans, dans cette guéguerre ou cette compétition Daft Punkienne, Cassius, à la recherche du succès. Puis à la fin, c'est Daft Punk qui gagne, quoi.
Secrète de la French Touch. Épisode 9. Les Daft Punk deviennent des robots.
Je me suis rien dit, on n'arrêtait pas de me dire, t'as vu, ils t'ont samplé, j'avais même pas reconnu.
C'est Ron.
3 ans après, ils sont venus me voir pour faire les éclairer. j'ai vraiment apprécié. Ça a ouvert les portes, disons. D'un seul coup, les Français, on n'était pas des copieurs, on était, c'était intéressant. Fallait écouter. Daft Punk, pratiquement tous les titres, ils ont eu des samples de partout. Mais c'est un son, ils se l'approprient, ça devient comme une chanteuse qui peut chanter une chanson de Piaf, mais d'un seul coup, c'est plus Piaf, c'est la mélodie de Piaf, mais c'est à elle. On a plein d'exemples comme ça. Daft Punk est un exemple, ils ont un vrai son à eux, quoi.
Parce qu'en vrai, c'était la fin de la French Touch. Tu peux plus vraiment rien faire avec les samples sans que ça soit un peu ridicule par rapport à ça, quoi, je pense. C'est la fin, c'est le tiré de rideau, voilà. C'est presque genre, regardez ce qu'on peut faire avec la French Touch quand on arrêtait de faire vos trucs. Regarde ce qu'on peut faire.
C'était l'exigence artistique qui comptait pour eux.
Maya Masbeuf.
C'était pas de faire des tubes, mais c'était de faire des bonnes chansons, des bons titres.
On m'a demandé de faire un remix du morceau Too Long de Discovery.
Chili Gonzalez.
Ben, moi, j'ai pris ça plus comme faire un remake et je me suis dit, je vais faire semblant que la version Too Long de Daft Punk est une reprise ou un remix d'un morceau un peu 70, un peu qu'on appelait le yacht rock. Le truc un peu décadent, hyper bien produit, avec des sonorités, studio hyper professionnel, hyper brillant et shiny et lisse. Et moi, je l'ai un peu reconstruit comme si c'était un tube de yacht rock et je l'ai chanté moi-même. Il y avait même un changement de tonalité à la fin. Le truc vraiment classique.
It's been much too long, I feel it coming on. The feeling is getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones.
Il y a plein de morceaux des Daft où on peut maintenant se rendre compte. On peut les reprendre de telle manière, de telle manière. Mais en 2000, c'était peut-être... Peut-être un des premiers à un peu faire cette connexion avec mon oreille qui aime bien trouver les équivalents, mon oreille qui préfère jouer un morceau au piano pour trouver sa vraie squelette, enlever toutes les références, enlever tout ce qui fait que oui, le French Touch, c'est avec des filtres, c'est avec un gros pied. Pour moi, Daft Punk, c'était des purs songwriters qui ont bien sûr choisi des instruments et un esthétisme qui était assez nouveau. Mais moi, j'ai entendu une âme assez classique dans le sens où un morceau de Daft Punk, surtout les morceaux chantés avec des paroles, ce sont vraiment des classiques qu'on pourrait imaginer dans plein de styles. C'est vraiment intemporel.
At last, the long wait is over. The weight is off my shoulder. I'm taking all control. My mind is set so free. Where I want to be to get the best of me. You know you need.
quoi. J'aime beaucoup ce disque.
Benjamin Diamond, du groupe Stardust.
Je pense que Thomas, il cristallise vraiment toute cette culture. On a le même âge, hein, tu vois, donc des années 80. C'est lié, en fait, à une période, en fait. C'est comme... pas musicalement, mais c'est comme Stardust, c'est-à-dire pour pas mal de gens, en fait, c'est lié à l'inconscient collectif. Pour moi, c'est cet album Discovery, c'est vraiment une période de ma vie.
À suivre, épisode 10, la pyramide des Daft Punk.
Le son était d'une puissance phénoménale, en plus les robots, les trucs, enfin la pyramide, il y avait ce côté mystique, c'était un ovni, leur truc. Stronger.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.